Bien, il est 10 heures, donc nous pouvons commencer. Comme d'habitude, je rappelle, le cours dure 2 heures, on fait une toute petite pause presque au milieu. Et d'autre part, à partir de la semaine prochaine, pour les deux dernières les deux dernières conférences, nous serons dans l'amphithéâtre Budé, donc qui est aussi au sous-sol, mais pas celui-ci. Aujourd'hui, donc, continuant notre exploration de l'histoire croisée entre fiction et histoire comme discipline de savoir, je voulais présenter quelques réflexions sur une pièce de Lope de Vega qui a pour titre Fuente Ovejuna. Et en 1965, tout à fait à côté d'ici, dans le lycée Louis-le-Grand, une mise en scène de cette comédia de Lope de Vega avait été faite par un jeune homme qui a connu ensuite une très belle carrière, Patrice Chéreau. Et cette mise en scène est l'une des premières qu'il avait faites, peut-être même la seconde, avec la troupe du théâtre de Louis-le-Grand. Ce fait m'a attiré mon attention parce que d'un côté, il pouvait être lié à un intérêt pour la comédia, ce genre espagnol qui met en scène, pas toujours, mais très souvent, des intrigues historiques. Et il faut rappeler qu'en 1961, au Festival d'Avignon, Jean Villard avait mis en scène une pièce, non pas de Lope, mais de Calderón, qui a pour titre l'Alcalde de Zalamea. Donc ces pièces qui mettent en place des conflits de pouvoir, en général, entre des autorités locales et le pouvoir souverain. On peut penser aussi que Chéreau avait été intéressé par l'ambiguïté ou l'ambivalence de la signification de cette pièce. Il s'agit, je le rappelle, peut-être tout le monde ne connaît pas Fuente Ovejuna, qui n'a pas été joué très souvent ensuite. Il y a eu quelques représentations par les troupes en France, mais pas aussi fréquemment que d'autres pièces de Lope ou de Calderón. Il s'agit d'une révolte d'une communauté rurale dans la villa, la petit bourg de Fuente Ovejuna, contre le seigneur du lieu, qui est le grand commandeur de l'ordre de Calatrava. Il a pour nom Fernand Gómez de Guzmán, et l'ordre de Calatrava étant un de ces ordres chevaleresques et militaires qui avaient été créés en Espagne à partir du XIIe siècle, à la fois dans l'idée de la croisade, de reconquête des lieux saints, mais plus précisément encore dans le processus même de la Reconquista aux dépens de l'Espagne musulmane qui occupait depuis 711 la plus grande partie du territoire de la péninsule. L'intrigue de la pièce est le massacre de ce commandeur de l'ordre de Calatrava, seigneur de Fuente Ovejuna, par les paysans et par la communauté, menée par ses représentants, c'est-à-dire à la fois les échevins du bourg et d'autre part l'alcalde qui est un magistrat doté de pouvoirs de justice locale. Et le fait qui a marqué cette révolte est le fait que lorsque une enquête a été ouverte pour accuser et éventuellement châtier les responsables du massacre, enquête ouverte à la demande des rois catholiques sur le crime et avec la torture, les villageois tous ont répondu, lorsqu'on demandait qui a commis ce meurtre, Fuente Ovejuna lo hizo, c'est Fuente Ovejuna qu'il a fait, c'est-à-dire le refus de toute dénonciation individuelle et le fait d'assumer une responsabilité communautaire et collective. Du coup, sur cette intrigue sur laquelle je vais revenir, les interprétations peuvent être et ont été au cours du XIXe siècle extrêmement différentes, voire opposées, les unes qui trouvent leur racine dans les réflexions d'un des grands fondateurs de l'histoire de la littérature espagnole, Menéndez Pelayo, soulignant la présence du peuple sur la scène du théâtre, sur la scène du Corral de Comedias, soulignant aussi le thème fondamental de cette pièce, c'est-à-dire la préservation, la défense de l'honneur paysan, puisque si le commandeur a été massacré, c'est parce qu'il violait cet honneur paysan, à la fois par des exactions quant à la confiscation des biens des habitants, des villageois, des vecinos de Fuente Ovejuna, et aussi, on le verra, un thème très important, par le fait d'abuser de leurs filles et de leurs femmes. Donc, de ce côté-là, dans cette perspective, Menéndez Pelayo parlait de Fuente Ovejuna comme l'œuvre la plus démocratique du théâtre espagnol, puisqu'elle met en scène le peuple et puisqu'elle semble justifier la cause de la défense de l'honneur qui peut aller jusqu'au meurtre du tyran. Dans d'autres interprétations, au contraire, finalement, on pourrait dire, même si le peuple est en scène, ce qui est le sens de la pièce serait une forme de conformité avec l'ordre social. D'abord parce que la pièce, vous le verrez, est une exaltation de la nouvelle monarchie qui se met en place avec ceux qu'on appelle les rois catholiques, c'est-à-dire Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, qui donnent leur pardon aux révoltés de Fuente Ovejuna, et d'autre part parce que, en fait, la pièce, même si elle dénonce, même si elle montre les exactions et les violences du commandeur de l'ordre de Calatrava, Fernán Gómez de Guzmán, est prise aussi dans une matrice de la louange aristocratique, dans la mesure où un des autres personnages politiques de cette pièce, qui est le maître de l'ordre de Calatrava, qui est donc au-dessus dans la hiérarchie de l'ordre par rapport au commandeur, au grand commandeur, Giron, est l'ascendant, l'ancêtre d'une famille qui est, au moment au début du XVIIe siècle, parmi les protecteurs de Lope de Vega. Et donc ce maître de l'ordre de Calatrava, Teles de Giron, est montré à la fois dans la bravoure guerrière et d'autre part dans, après un moment d'égarement, le retour à la fidélité au roi catholique. Il y a donc dans cette pièce cette tension quant à l'interprétation et qui renvoie finalement à une tension qui a été notée par la critique entre ce que l'on sait de Lope de Vega et de son propre idéologie aristocratique, conservatrice, très engagée aux côtés de l'Inquisition. Il est un de ces familiards de l'Inquisition, c'est-à-dire des agents ou des personnes qui travaillent en collaboration avec l'Inquisition, et d'autre part, la signification de cette représentation populaire qui paraît pleinement légitimée, y compris dans sa phase ou sa forme la plus paroxystique, c'est-à-dire l'assassinat du grand commandeur de l'ordre de Calatrava. Et c'est sans doute cette tension entre la vie et l'œuvre et d'autre part entre les interprétations qui peut-être, ce serait intéressant de lui demander, avait attiré l'attention du jeune Patrice Chéreau pour cette mise en scène de 1965. Alors pourquoi parler de Fuente Ovejuna aujourd'hui? C'est parce que cette pièce est un des cas que je voulais traiter dans cette série de cours, c'est-à-dire les relations entre la fiction de l'histoire et d'autre part la description sur le registre de la connaissance du passé. Quel est le rapport qui existe entre ce que l'on a montré sur la scène à travers le texte de Lope de Vega et d'autre part ce qui pour le XVIIe siècle ou le XVIe était l'histoire, c'est-à-dire la chronique. Et le rapport donc entre est un rapport de distorsion ou de déformation entre ce que fait Lope de Vega avec les faits historiques tels qu'ils lui sont rapportés par une chronique historique. Et donc, dans le thème du cours, qui est non seulement des histoires sans frontières, mais des histoires croisées, c'est-à-dire comment la fiction d'un côté et l'histoire, quelle qu'en soit la forme, celle de la chronique ou celle de l'histoire des historiens plus modernes, sont en compétition pour donner présence au passé dans une société donnée. C'est un thème que l'on a abordé dans les précédents cours, mais qui particulièrement, et avec des échos même thématiques, avait été évoqué lorsque, dans le tout premier cours, j'avais donné d'une manière assez brève quelques éléments autour d'une autre représentation, d'une révolte paysanne, avec la même ambiguïté quant à la signification, c'est-à-dire une signification positive du côté d'une révolte présentée comme millénariste, prophétique ou égalitaire, et de l'autre côté, la même révolte présentée comme dérisoire, carnavalesque, cruelle, qui était le cas de cette révolte des paysans anglais de 1450, la révolte menée par Jack Cade et mise en scène par Shakespeare dans la deuxième partie de Henri VI. On trouve là donc un parallèle, puisque ce que j'avais essayé d'évoquer était la manière dont Shakespeare déplaçait, transformait, reformulait les données qui lui venaient des chroniques, Holinshed, Hall, Grafton, pour en faire une représentation sur la scène ambivalente, ambiguë, contradictoire. Alors aujourd'hui, nous nous déplaçons sur le monde hispanique, mais avec la même question, c'est-à-dire comment peut-on faire ou comment fait-on du théâtre avec de l'histoire entendue comme le passé, puisque les événements de rapport Fuente Ovejuna sont effectivement advenus en 1476, et l'histoire dans la narration de ce passé. Et ici, la première attention que l'on doit porter, c'est sur la source même de la pièce de Lope de Vega, c'est-à-dire une chronique publiée à Tolède en 1572 et qui a pour titre « Crónica de las tres órdenes y caballerías de Santiago, Calatrava y Alcántara ». Chronique des trois ordres et chevalerie, mais en fait on pourrait dire des trois ordres militaires de Santiago, de Calatrava et de Alcantara. Et cette chronique avait été écrite par un chroniqueur, un historien, Francisco de Rades, qui était d'ailleurs lui-même un chapelain dans l'ordre de Calatrava. Et donc je rappelle que ces trois ordres, le plus ancien étant celui de Calatrava, mais suivi de peu par Santiago et Alcantara, avaient été fondés comme des ordres militaires, donc où les religieux d'ailleurs se faisaient appeler frailes avec un E et non pas frailes comme dans les ordres contemplatifs, et avec une première mission, c'est-à-dire la lutte contre les musulmans, si possible en récupérant le Saint-Sépulcre, mais d'abord en les chassant d'Espagne au fur et à mesure des avancées de la Reconquista. Alors cette chronique, on la trouve, j'ai oublié de dire, que si vous avez envie de lire après le séminaire, si vous ne l'avez pas fait, Fuente Ovejuna, il y a d'une part en français une traduction dans le tome 1, non, oui, le premier tome du théâtre espagnol du XVIIe siècle, celle dont je vais me servir. Il y a d'autre part une édition, mais il y en a beaucoup en espagnol, mais une édition qui est assez rigoureuse chez Critica, par Donald McGrady, et puis pour une comparaison du texte espagnol et d'une traduction française dans la petite collection de poches de Aubier Flammarion, les bilingues, vous avez une traduction par Louis Combet. Et donc on peut se servir de ces bases, d'autant que dans le texte, dans le petit livre de la traduction française avec le texte espagnol bilingue, Louis Combet a donné une traduction, pas totale, mais du moins assez suffisante pour notre propos d'aujourd'hui, de la chronique de Rades qui sert de source à Lope de Vega, c'est-à-dire ce que Lope de Vega a pu lire lorsqu'il a voulu ou pensé qu'il était judicieux de mettre sur la scène le fait de Fuente Ovejuna. Parce que, effectivement, dans la chronique de Rades, lorsqu'il décrit l'histoire de l'ordre de Calatrava, il arrive à un moment où il a comme titre « El hecho de Fuente Ovejuna », le fait, l'événement de Fuente Ovejuna. Et son texte commence ainsi. « Comme les affaires de cet ordre se trouvait, en l'état que l'on vient de dire, Don Fernán Gómez de Guzmán, grand commandeur de Calatrava, qui résidait à Fuente Ovejuna, ville de sa commanderie, infligea tant d'outrages, et des plus graves, aux habitants de cet endroit, qui, ne pouvant plus les souffrir ni les excuser, ces derniers décidèrent d'un commun consentement et accord de se soulever contre le commandeur et de le mettre à mort. Poussés par cette détermination et par la fureur d'un peuple irrité, les alcaldes, les échevins, les alguaciles, les conseillers municipaux se réunirent une nuit du mois d'avril de l'an 1476 avec les autres habitants et à main armée entrèrent de force dans les maisons de la grande commanderie où se trouvait le dit commandeur. Tous criaient « Fuente Ovejuna, Fuente Ovejuna » et disaient « Vive le roi Don Ferdinand et la reine Doña Isabel » et meurent les traîtres et les mauvais chrétiens. Donc on a la mise en place ici de l'axe de l'épine dorsale de cette intrigue, une révolte concertée, et vous voyez avec un accent mis sur le rôle des représentants de la communauté, magistrats, échevins, conseillers, qui mobilisent tous les habitants de la communauté pour aller massacrer en criant non seulement la responsabilité collective, déjà à Fuente Ovejuna, mais aussi en se liant dans leur révolte contre le tyrannique commandeur aux deux souverains espagnols, j'y reviendrai, Isabelle et Ferdinand. La chronique raconte comment il est entré dans la maison forte du commandeur, il massacre 14 de ses défenseurs. Et ensuite vient une description extrêmement précise de la mort et des souffrances infligées au commandeur. Remplis de fureur et d'une rage funeste, ils se jetèrent sur le commandeur et portèrent la main sur lui, lui infligeant tant de blessures qu'ils le jetèrent à terre, privé de sentiments. Avant qu'il n'eût rendu son âme à Dieu, ils se saisirent de son corps en poussant de grandes et joyeuses clameurs, criant « Vive le roi et la reine et meurent les traîtres !» Et ils le précipitèrent dans la rue du haut d'une fenêtre, et d'autres, qui se trouvaient en bas avec des lances et des épées, placèrent les pointes en l'air afin d'y recevoir le corps qui respirait encore. Une fois qu'il fut à terre, ils lui arrachèrent la barbe et les cheveux avec grande cruauté, et d'autres, avec les pommeaux de leurs épées, lui brisèrent les dents. Et à tout cela, ils ajoutèrent des paroles fort grossières et outrageantes et de grandes insultes contre le grand commandeur et contre son père et sa mère. Là-dessus, avant qu'ils ne finissent d'expirer, on vit accourir les femmes de la ville avec des tambourins et des grelots afin de célébrer joyeusement la mort de leur seigneur. Et à cet effet, elles avaient confectionné un drapeau et nommé une capitaine et une porte-enseigne. Les enfants également, à l'imitation de leurs parents, firent leur armée et placés en ordre tout autant que leur âge le leur permettait, allèrent solenniser cette exécution. Et tous rassemblés, hommes, femmes, enfants, ils transportèrent le corps en grande liesse sur la place publique, et là, tous, hommes et femmes, le mirent en pièces, le traînant sur le sol et lui faisant subir mille cruautés et outrages, et ils ne voulurent point le remettre à ses serviteurs pour qu'on lui donnât une sépulture. Outre cela, ils saccagèrent sa maison et lui dit Robert, tout son argent. On voit le déroulé qui se dont on trouverait des éléments tout à fait parallèles dans des descriptions des cruautés durant les guerres de religion dans le royaume de France, où l'on voit que cette gradation des violences, d'abord contre un corps encore vivant, blessé, jeté par la fenêtre sur les lances, mutilé, avant même sa mort. Aun tenia anima, il avait encore son âme. On voit aussi ces insultes et avec ce trait final, c'est-à-dire les insultes contre la mère, ce qui est un thème qui va lier de nombreux éléments dans la pièce et qui est celui de la conservation de l'honneur individuel ou familial par les femmes. Et on voit aussi ce fait qui frappe le chroniqueur, c'est-à-dire que les femmes d'une part, les enfants d'autre part, s'organisent comme de véritables petites armées avec capitaines, lieutenants, drapeaux. Et in fine, ce corps dont on peut maintenant supposer qu'il est un cadavre, qui est traîné, mis en pièces et outragé, et cet ultime acte, le refus de rendre le corps au serviteur du commandeur, c'est-à-dire de le priver de toute sépulture chrétienne. Et là, la description emploie un mot qui a été traduit avec différents mots français par Louis Combet, mais qui est toujours le verbe regocijar ou regocijo, la jouissance, la réjouissance, la joie. Il y a donc cet élément qui appartiendrait là aussi à un répertoire carnavalesque, charivari, d'ailleurs avec ses conduites de bruit, puisque les femmes arrivant arrivent avec, comme le dit le texte, des tambourins et des grelots. Donc on est sur un registre de cette liesse liée à des punitions, des moqueries, soit dans le carnaval, soit dans les charivari, et on est d'autre part dans une forme qu'on trouverait plus puissamment encore dans les description des guerres de religion française, c'est-à-dire cette sorte de ritualisation du massacre, et lorsque les jeunes enfants, très parallèle aussi avec des massacres des guerres de religion, un rôle donné aux jeunes enfants, sans doute parce que la figure d'innocence qu'ils représentent donne la totale légitimité à l'action, à l'acte, ici avec le verbe solennissar, qui a été traduit donc correctement, bien évidemment, par pour solenniser cette exécution. Le troisième temps de ce que Lope a pu lire dans la chronique de Rhades, c'est ce qu'il advient après ce meurtre, c'est-à-dire l'arrivée à Fuente Ovejuna d'un juge qui a été chargé d'enquêter sur cette hecho, sur ce fait, pour en découvrir les coupables. Et ici, la description rappelle que le juge va soumettre à la question, donc à la torture, les habitants de Fuente Ovejuna, qu'ils vont montrer une très grande constance et force d'âme, et que toutes les fois que leur juge leur demandait qui a tué le grand commandeur, eux répondaient Fuente Ovejuna. Ils leur demandaient mais qui est Fuente Ovejuna? Ils répondaient tous les habitants de cette ville. Finalement, toutes leurs réponses furent de cette sorte, car ils avaient juré entre eux de ne pas répondre autre chose, du style mourir sous la torture. Et ce qui est encore plus digne d'admiration, admiration, donc à la fois d'étonnement, de surprise, qui dépasse le sens commun, c'est que le juge fit donner la question à de nombreuses femmes et enfants d'un tout jeune âge, et ils eurent la même constance et le même courage que les hommes les plus forts. Du coup, la conclusion de cette enquête est celle-ci, ce que voyant, l'inquiéteur revint à Tolède afin d'informer les rois catholiques des résultats de sa mission et de voir ce qu'il lui ordonnerait de faire. Et leurs altesses, donc Isabelle et Ferdinand, au su des actions tyranniques du grand commandeur, actes pour lesquels il avait mérité la mort, lui ordonnèrent d'arrêter là son enquête sur cette affaire. Il n'y a donc pas de punition, il n'y a pas non plus de pardon, il y a le fait que les souverains considèrent d'une part qu'il y avait une justification contre les tyrannies du commandeur et que, d'autre part, que donc la seule décision était d'arrêter cette enquête sin mas averiguación, sans plus d'investigation. Et les raisons, on les voit qui apparaissent ensuite. Le chroniqueur reprend la plume pour expliquer pourquoi la communauté de Fuente Ovejuna avait massacré le seigneur. D'une part, il les réfère à ce qu'il appelle des maltratamientos, les mauvais traitements qui avaient été faits à cette communauté. En particulier, il mentionne un point qui peut lier cette histoire à une histoire plus grande. Il avait fait subir de mauvais traitements à ses vassaux en maintenant dans la ville un grand nombre de soldats afin de soutenir la cause du roi de Portugal qui prétendait au trône de Castille. Le logement de soldats étant toujours une forme d'exaction, puisque ceux-ci se livraient aux pires actions pour ne fût-ce assurer leur survivance, mais aussi que soumettre à leur loi les habitants. Donc les maltratamientos étaient liés à cette présence d'une petite garnison militaire à Fuenteovejuna. Et d'autre part, la deuxième raison que Rades évoque, qui était sans doute derrière la reconnaissance par les souverains qu'il fallait arrêter là l'enquête, c'est ce qu'il appelle les agravios y descendras. Et au sud, je reprends le texte, et il laissait ces gens sans foi ni loi commettre de graves insultes et outrages au détriment des gens de la ville, outre les dommages qu'ils faisaient subir à leurs biens. Pis encore, le grand commandeur lui-même a fait offenser gravement et attenter à l'honneur des habitants de la ville en prenant de force leurs filles et leurs femmes. Et c'est là où le mot apparaît, de « deshonras », de « infliger un déshonneur » à côté de la confiscation des biens. Et du coup, on voit deux éléments, c'est d'un côté pourquoi on peut qualifier de tyrannie ce comportement, puisque la tyrannie liée à ce qui, pour la théorie politique du XVIe et XVIIe, correspond au despotisme oriental, c'est l'arbitraire dans la disposition par un prince des biens et des corps de ses sujets. Et donc, le commandeur se conduit comme un tyran. Et d'autre part, on le revoit avec cette idée ici de l'honneur blessé ou tué par la deshonras commise par le commandeur, c'est-à-dire qui réside dans la vertu ou le corps de la femme. Alors le dénouement, tel que Rades le décrit, c'est d'un côté la communauté qui va destituer les officiers de justice qui avaient été nommés par l'ancien commandeur, et d'autre part va demander son retour à la ville, son retour dans la juridiction de la ville de Cordoue, puisqu'il y avait là un conflit. Traditionnellement, Fuenteovejuna faisait partie de la juridiction de la ville de Cordoue, mais en 1460, donc 16 ans avant les événements, Fuenteovejuna avait été donnée par le roi à l'ordre de Calatrava, et c'est ce qui explique pourquoi que le grand commandeur de cet ordre s'en était trouvé le seigneur, puisque la ville ou le bourg de Fuenteovejuna était devenu une encomienda, une à la fois la disposition de droit et la seigneurie sur le territoire. On a ici donc la trame fondamentale que Lope reçoit. Avec, s'il s'était référé, comme on peut le supposer, aux pages qui précédaient cette description du fait, de l'hecho, de Fuenteovejuna, une référence qui s'éclairait sur ce roi de Portugal qui prétendait au royaume de Castille. Et en quelque sorte, là, dans la chronique, le fait de Fuenteovejuna était situé à l'intérieur d'une perspective plus large qui renvoyait à une autre réalité historique, c'est-à-dire en 1474, 2 ans avant la mort du roi Enrique IV, Henri IV de Castille et León, et le déchaînement d'une guerre de succession entre deux prétendantes. D'un côté, la sœur du roi, Isabelle de Castille, qui avait épousé Ferdinand d'Aragon, ceux qui vont devenir les vainqueurs et donc les rois catholiques, mais de l'autre côté, une autre prétendante qui était la fille du roi Henri IV, qui s'appelle Juana, qui était dite la Beltraneja parce qu'il y avait des suspicions sur sa naissance et sur son père qui aurait pu être le favori de Henri IV, le Beltrán de la Cueva. Et elle avait épousé Alphonse V de Portugal. Et de là, cette guerre dynastique qui fait que le roi de Portugal envahit la Castille en 1475 et défait à la bataille du Toro et va finalement renoncer définitivement en 1479 avec un traité avec les rois catholiques à ses prétentions sur le trône. Mais l'arrière-fond de la révolte paysanne et rurale de Fuente Ovejuna, c'est cette guerre dynastique entre deux partis prétendant à la légitimité de la succession. Et du coup, un autre élément qui était présent dans la chronique de Rades et qui liait en quelque sorte le fait de Fuente Ovejuna avec la guerre dynastique, c'était la partie qu'il consacrait non pas au commandeur, qui est très peu présent finalement, sauf sous les traits de ce tyran massacré dans sa chronique, mais au maître de l'ordre de Calatrava, Rodrigo Tellez Girón, qui avait accédé à la maîtrise, donc au gouvernement suprême de l'ordre en 1474, alors qu'il n'avait encore que 16 ans, et qui avait pris le parti du roi de Portugal et de Juana. Et du coup, dans cette guerre, aux côtés pour Portugal, il s'était emparé, après la mort d'Henri IV, de la ville de Ciudad Real, il l'avait tenue jusqu'au moment où les rois catholiques, Isabelle et Ferdinand, avaient reconquis la ville, pas eux directement, mais ceux qui luttaient pour elle, c'est-à-dire le comte de Cabra et Manrique, ce qui avait entraîné du coup le ralliement de Tellez Girón, qui auparavant était favorable au Portugal, à son ralliement au roi catholique qu'il va servir jusqu'à sa mort, d'ailleurs assez rapide, en 1482, dans une bataille de Reconquista contre les Maures lors du siège de Loja. Donc on a dans cette chronique ce personnage-là, Tellez Girón, qui est important, avec à la fois sa première faveur pour le Portugal et ensuite les événements de Ciudad Real et son ralliement au souverain catholique. Et d'un autre côté, la figure du grand commandeur est assez peu présente et en tous les cas, elle est toujours en filigrane négative, c'est-à-dire comme la cible de la révolte de Fuente Ovejuna. Et il n'est pas dit que le grand commandeur avait pris le parti du roi de Portugal. Il est simplement dit qu'il y avait une garnison militaire dans la ville de Fuente Ovejuna pour qu'il avait admise ou tolérée ou installée, mais pas plus. Et depuis, évidemment, les historiens ont pu montrer que le grand commandeur avait été en fait favorable au roi catholique. Et que donc là, il y a une première distorsion de la chronique, ou du moins une ambiguïté de la chronique, qui ne le dit pas expressément, mais qui le laisse entendre par rapport à ce qui était la réalité historique, et qui aurait été évidemment un désaccord entre le maître de l'ordre favorable au roi de Portugal et le grand commandeur favorable à Isabelle et à Ferdinand. Alors cette première réalité, c'est ce qu'a pu lire Lope de Vega. Mais le fait de Fuente Ovejuna, elle est au-delà de cette chronique de l'histoire des trois ordres militaires, parce que le fait était dans sa partie de la réponse des paysans ou des villageois à l'enquêteur royal, était devenue comme proverbiale ou comme légendaire. Donc, je rappelle, on est 1476 et que la pièce est du début du XVIIe siècle. Et entre les deux, s'était construite une sorte de légende ou de mythe de Fuente Ovejuna. On en a une preuve éclatante avant la pièce de Lope dans le dictionnaire de la langue castillane ou espagnole de Covarrubias, publié en 1611. Si vous allez à l'article Fuente, qui est décrit comme les fontaines ou les sources, on rencontre la description suivante que j'ai traduite. Dans l'an 1476, quand eut lieu la bataille de Toro, c'est-à-dire entre Portugal et Castille. Comme toute la Castille se trouvait divisée entre les partis, ceux de Fuente Ovejuna, une nuit du mois d'avril, se convoquèrent pour mettre à mort Hernán Pérez de Guzmán. On voit qu'il y a une altération du nom, puisque son nom historique est Fernán Gómez de Guzmán, grand commandeur de Calatrava, pour les nombreuses offenses qu'il prétendait, les paysans, enfin les habitants de Fuente Ovejuna, qu'il leur avait faite. Et entrant dans sa maison même, ils le tuèrent à coups de pierre, et bien que des juges aient été envoyés pour enquêter sur le cas, qui mirent à la torture beaucoup d'entre eux, hommes et femmes, ils ne purent en tirer d'autres mots que « Fuente Ovejuna l'a fait ». Fuente Ovejuna lo hizo. D'où vient le proverbe ? Quand un délit est connu et que l'on ne trouve pas qui l'a commis, alors que nombreux sont les coupables, il faut dire « Fuente Ovejuna l'a fait ». Voyons que dans le dictionnaire, dans cette entrée, il y a « proche et différent » du texte de la chronique de Rades, cette description et en même temps la reconnaissance que l'expression « Fuente Ovejuna l'a fait » est devenue proverbiale, est devenue quelque chose qui est entré dans la langue, dont le dictionnaire restitue l'origine historique. Et c'est sans doute dans cette rencontre entre la chronique de Rades et cette présence proverbiale du « Fuente Ovejuna lo hizo » qui a inspiré Lope. Il y a une discussion pour savoir s'il a pu utiliser d'autres sources, une chronique du règne d'Henri IV par Palencia, cette chronique n'existant d'ailleurs qu'en latin, ou même peut-être la description du fait, mais qui n'est pas particulièrement différente de ce que dit Rades dans la « Historia de España de Mariana ». Le problème donc qui peut nous intéresser aujourd'hui, c'est évidemment comment Lope de Vega va construire, en utilisant cette source et cette légende, ou ce proverbe, une vérité qui est une vérité de l'histoire sur le registre poétique et dramatique, et qui à la fois doit se nourrir de la source, c'est-à-dire de la chronique, et en même temps, comme on va le voir, la met à distance, la transforme, la reformule. Mais avant de faire cela, je crois qu'il peut être bon de revenir, parce que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce monde-là, de cette production de fiction que sont les fictions d'histoire à l'intérieur des comédias, de revenir sur le genre d'une part, la comédia, et d'autre part sur l'auteur Lope de Vega. Et avec une question que j'avais déjà abordée dans les cours de l'année dernière, c'est-à-dire la question centrale de la relation entre la représentation sur les tréteaux, dans les corrales de comédia, et les éditions imprimées, qui nous donnent accès à cet immense répertoire. Dans la mesure où on est devant une situation où, comme dans le monde élisabétain, ou peut-être comme dans le monde français, ce qui prime, c'est le théâtre, la représentation, l'action. Et on peut le voir de plusieurs manières. On peut le voir dans le fait que la durée tolérable de la représentation commande la longueur de l'écriture dans le manuscrit de la pièce. Le cas de Lope est tout à fait symptomatique pour cela, puisque considérant qu'une représentation de comédia doit durer deux heures, ce qu'il dit être la durée que peut tolérer un Espagnol assis, il en conclut ce que doit être la longueur du manuscrit que le dramaturge doit écrire. Dans un texte souvent cité, mais intéressant parce qu'il définit une sorte de poétique dramatique qui est El arte nuevo de hacer comedias en este tiempo, qui est une sorte de conférence ou discours qu'il a tenu devant une petite académie madrilène et qui est publié en même temps, en 1609, il fait remarquer que chaque acte ne compte que 4 cahiers, 12, c'est ce qu'il faut, compte tenu du temps et de la patience de celui qui écoute. Les deux heures de la représentation sont donc traduites en termes d'écriture par ces 12 cahiers. Alors il faut là être très sensible au mot espagnol, c'est-à-dire les 12 pliegos, qui est un mot extrêmement précis et qui définit une feuille pliée deux fois, aussi bien dans le monde de l'imprimerie que pour l'écriture manuscrite, c'est-à-dire une feuille qui est pliée de cette façon-là et où le dramaturge écrit dans cette structure d'un i-quarto. Donc quatre feuillets, huit pages pour un pliego, et comme la totalité d'une commedia qui est de trois actes et chaque acte devant correspondre à quatre pliego, on obtient un total de 48 feuillets ou recto verso de 96 pages, ce qui permet les longueurs moyennes des comédias entre 2700 et 3000 vers. Donc c'est une déclaration dans laquelle la durée est convertie en feuillets, puisqu'il y a donc ces 12 qui correspondent aux trois actes d'une commedia, puisque très tôt, Lope, après le modèle ancien de la commedia divisée en quatre actes, est passé à la structure qui est celle de toutes les grandes commedias, qui est celle des trois actes. Et l'intérêt, sans, je l'avais déjà signalé, c'est le fait que lorsqu'on est confronté à la pratique d'écriture de Lope de Vega, ce qui est possible puisqu'à l'inverse ou à la différence du monde élisabétain ou du monde français, ont survécu d'assez nombreux manuscrits autographes des dramaturges. On en connaît 47 pour Lope de Vega, malheureusement pas pour Fuente Ovejuna, mais pour d'autres pièces. On voit qu'il respecte lui-même ses propres règles, puisque à l'Université de Pennsylvanie, sont conservés deux manuscrits autographes de Lope de Vega, Carlos V en Francia et Los Benavides. Et le manuscrit de Carlos V en Francia, de la main même de Lope, comporte 49 feuillets et 2817 vers. On a donc ici le primat de la représentation commandant l'écriture dans son support, les 12 pliegos, et dans sa longueur, les 2700, 3000 vers. D'autre part, la représentation commande l'écriture dans un autre sens, c'est-à-dire que la multiplication des troupes autorisées à Madrid fait qu'on est devant une demande de pièces extrêmement importantes, un peu les mêmes rythmes que dans le théâtre à Londres. Et cette demande permanente de nouvelles pièces entraîne la prolifération ou la prolixité de l'œuvre. Et là encore, évidemment, Lope de Vega est un cas paroxystique de cette prolixité qui répond à la demande. Il a plusieurs fois annoncé et évoqué le nombre de pièces qu'il s'attribue, qu'il dit avoir écrit. Par exemple, dans l'Arte, donc de 1609, il dit « N'ai-je pas écrit à ce jour 483 comédias ?» et dont 6 seulement respecteraient les règles aristotéliciennes, puisque derrière cette poétique, et d'ailleurs dans la pièce de Fuente Ovejuna, se trouve posée la question de l'écart par rapport aux règles aristotélicienne qui s'était un peu réduite aux règles des unités, une unité de temps, 24 heures, une unité de lieu et une unité d'action. Et aucune des comédias, ou presque aucune, ne correspond à ces règles. Il dit, sauf 6 des 483 que j'ai écrites, pourraient entrer dans ce modèle. Toutes les autres ont des durées qui débordent beaucoup une seule journée, qui jouent sur une multiplicité des lieux. Et ici, on le verra, on va de Fuente Ovejuna à Cordoue, à Ciudad Real, et on n'a pas une unité d'action, mais des actions qui viennent se lier l'une à l'autre. Et c'est dans ce cadre-là qu'il évoquait ces 483, dont seulement 6 répondaient à ces règles de la poétique aristotélicienne, si elles se figeaient à l'intérieur de respect des règles. Mais si la poétique aristotélicienne, comme le faisait Lope et ses défenseurs, était guidée par le principe de plaire au public, évidemment, à ce moment-là, il y avait une récupération possible d'Aristote contre la lecture des aristotéliciens, au moins sur le plan de la poétique dramatique. En 1618, dans la réédition de son roman chrétien « El peregrino en su patria », Lope indique 448 titres des comédiates qu'il a écrites. Ici, le but est différent. Pourquoi cela? C'est parce que, se plaignant du fait qu'on imprime des comédiates qu'il n'a pas écrites sous son nom, il va en donner la liste canonique à l'intérieur du prologue de Le Peregrino in Subadrian, la première fois en 1604, première édition, en 1618, la deuxième édition, pour avertir le lecteur lorsqu'il rencontre une comédia qui n'a pas un titre qui reste dans cette liste, il peut considérer qu'elle n'est pas de Lope de Vega. Il mentionne 448 titres, mais lorsqu'il les commente, en fait, il évoque le fait qu'il a écrit 462 comédias avec 50 feuillets chacune, donc il est tout à fait dans à la fois sa poétique et sa pratique, et du coup, dans cette sorte d'ostentation, de prolixité, il donne lui-même ce chiffre-là qui fait que si on le traduit, on a un auteur qui revendique à ce moment-là 23 100 feuillets de vers, c'est-à-dire 46 200 pages, et quelquefois il ne se borne pas à ce chiffre-là, puisque en 1620, dans la dédicace d'une pièce qui s'appelle El Verdadero Amante, une dédicace qui est adressée à son fils, il revendique 900 comédias. Et jusqu'à ce jour, personne n'a établi avec une totale sécurité et certitude le nombre authentique des comédias écrits par Lope de Vega. Mais en tous les cas, cette prolixité qui a une sorte de résonance psychologique, de montrer une puissance par la capacité d'écriture à une réalité sociologique, c'est-à-dire le fait de répondre à la demande des théâtres, des entrepreneurs de théâtre, ceux que l'on appelle autores de comedia, et donc du public, des corrales. Donc, primat de la représentation, mais en même temps que réalité, nécessité de l'édition imprimée. Ici, on peut juste évoquer le fait que les deux modes de publication imprimée des comédias, l'un qui est la publication de ce que l'on appelle les comédias sueltas, qui correspondrait au quarto élisabétain, une pièce qui est publiée dans un format quarto, et parfois, pour certaines comédias, c'est la seule édition connue. Je prendrai un exemple, si j'ai le temps de l'évoquer, qui est le cas d'un autre Fuente Ovejuna. Après la pièce de Lope de Vega, un autre dramaturge espagnol, mais qui n'est né qu'en 1612, donc qui est très décalé par rapport à Lope de Vega. Il est pratiquement né au moment où était composé le Fuente Ovejuna de Lope de Vega, qui s'appelle Cristóbal de Monroy, écrit sans doute dans les années 1630-1640, un autre Fuente Ovejuna, avec sur la page de titre Fuente Ovejuna Comedia Famosa, mais il n'y a pas de lieu, il n'y a pas de date d'impression. C'est une imitation, une refonte du texte de Lope de Vega. Le seul exemplaire connu est une édition de la pièce séparément, sous la forme de comédia suelta. Parfois, ce qui les a fait survivre, puisque, comme vous le savez, cette forme-là d'imprimé est extrêmement vulnérable et fragile, puisqu'elle n'est pas reliée. C'est le fait que certains libraires ou imprimeurs éditeurs ont rassemblé des éditions qui circulaient séparément pour les mettre dans un recueil, qui est donc un recueil factice, au sens qu'il n'est simplement le fait de mettre ensemble dans un livre relié 12 pièces qui ont circulé ou qui circulent encore de manière isolée. Et de là, la deuxième forme de publication des comédias, c'est la forme de ce que l'on appelle les partes, c'est-à-dire un format extrêmement rigide de 12 comédias qui sont mises ensemble, et avec toutes les variations possibles, c'est-à-dire soit des comédias déjà imprimés, ce que j'évoquais, donc dans ce cas-là, on pourrait parler de recueil factice, ou bien des comédias qui sont imprimés pour l'édition, et d'autre part, seconde variation, soit plusieurs auteurs, même si, et c'était la raison de la plainte de Lope de Vega, un seul nom pouvait être mis sur la page de titre, par exemple le sien, qui faisait mieux vendre que d'autres, ou bien les partes homogènes, c'est-à-dire pour des pièces d'un seul auteur. Et c'est ce qui advient avec la série des Partes de Lope de Vega, 25 sont publiés entre 1604 et 1647. Donc vous voyez, 25 multiplié par 12, qui est le nombre des comédias, de cette masse de textes revendiqués par Lope de Vega, 300 apparaissent à l'intérieur des Partes, auxquels il faudrait ajouter des textes de lui ou non, mais sous son nom, qui ont circulé dans d'autres Partes ou éventuellement sous forme de comédia sueltas. Alors la trajectoire des textes est tout à fait intéressante dans le monde du siècle d'or, puisqu'on peut partir du manuscrit autographe, et comme je le disais, même si c'est peu par rapport au total, c'est beaucoup par rapport à la situation européenne. 47 autographes de Lope de Vega, la plus grande partie se rencontrant à la Bibliothèque nationale à Madrid. Mais presque jamais, sinon jamais, le manuscrit autographe est celui qui est utilisé dans l'imprimerie. Parce que après l'existence d'un manuscrit autographe, la plupart des comédias sont copiés par des scribes professionnels, puis ensuite sont vendus à ceux que l'on appelle autores des comédias, qui ne sont pas les auteurs des comédias, mais qui sont les entrepreneurs de théâtre, qui à la fois achètent le manuscrit, vont convoquer ou payer la troupe, s'occuper des costumes ou des éléments rudimentaires du décor, et vont louer les corrales de comédia à leurs propriétaires. Donc les autores des comédias, dans ce sens-là, sont des entrepreneurs de théâtre, mais qui peuvent aussi jouer un rôle dans l'état du texte, parce que souvent, ils l'adaptent, le transforment, le révisent en fonction de ce qu'ils pensent être la meilleure solution pour le public. Et finalement, c'est ce manuscrit, copié par un scribe, modifié éventuellement par un autor de comédia, qui arrive dans les mains du libraire éditeur et de l'imprimeur. Et dans les cas où la comparaison est possible entre le manuscrit autographe de Lope et l'édition imprimée à l'intérieur de Partes, on voit qu'il y a de grandes transformations ou altérations, parce qu'il peut y avoir les erreurs qui sont traditionnelles dans la copie du manuscrit. Il y a ces adaptations ou révisions faites par les autores des comédias, et il y a évidemment aussi les fautes propres à la production typographique, en ajoutant que les manuscrits qui arrivent jusqu'à une imprimerie peuvent avoir subi ce cours auteur, copiste, auteur des comédias, mais que d'autres cas, le manuscrit, comme en Angleterre, et peut-être dans des cas plus rares, comme en France, peut venir par une autre forme de transmission du texte, c'est-à-dire à partir d'une reconstruction mémorielle faite par quelqu'un qui assiste à plusieurs représentations, qui reconstruit de mémoire le texte et qui va, anticipant la vente de l'auteur, vendre ce texte au libraire ou à l'imprimeur éditeur. Et c'est cette même mécanique qui peut justifier rhétoriquement ou authentiquement les raisons de la publication d'un genre qui n'est fait que pour le théâtre, ce qui est la contradiction fondamentale de l'édition de théâtre, c'est-à-dire de donner à lire ce qui est fait pour être vu et écouté. Lorsqu'on prend les préliminaires, c'est-à-dire les premières parties des textes, des Partes, on voit ces justifications. Je ne prendrai que deux exemples. La première, c'est dans la quatrième partie, la quarta parte, qui paraît en 1614, il y a une adresse à los lectores, aux lecteurs, qui n'est pas de Lope de Vega, même si elle est de quelqu'un qui est proche de lui, c'est-à-dire un des auteurs des comédias qui s'appelle Gaspar de Porres. Et il justifie l'édition du fait de la corruption des textes qui sont déjà en circulation. Je traduis. Les offenses que de nombreuses personnes font chaque jour à l'auteur de ce livre, en imprimant ses comédias d'une manière si grossière, comme il les a rencontrées après tant d'années qu'elles sortirent de ses mains, où il n'y a presque rien de concerté, d'accordé. Et ces autres offenses qu'ils souffrent de la part d'autres qui, pour leur intérêt particulier, impriment ou représentent des comédias qui ne sont pas les siennes sous son nom, je me suis senti obligé, par l'affection et l'amitié que j'ai pour lui depuis de nombreuses années, à imprimer Dar Luth, ces 12 comédias dont je possédais les originaux, originales. Alors évidemment, comme dans le cas shakespearien, on peut douter sur l'authenticité de ces originaux. Ils peuvent être effectivement des manuscrits de Lope ou des copies plus exactes des manuscrits. Mais on voit qu'ici, la justification de la publication est liée d'un côté à cette revendication d'authenticité, puisque ces textes qui portent le nom de Lope sans avoir été écrits par lui font tort à son honneur, sua opinión. Et de l'autre côté, comme le dit Gaspar de Porres, los aficionados, ceux qui aiment Lope de Vega, vont trouver là des textes plus exacts et corrigés d'après les originaux. Et donc, du coup, c'est de cette manière-là que Lope, auteur de Commedia, devient auteur de ce livre, de este libro, qui est la parte dans laquelle sont réunis 12 de ces comédias. Dans un autre prologue, qui est ici le prologue à une pièce qui s'appelle l'Arcadia, et qui fait partie de la décimo tercera parte, de la 13e des partes, 1619, c'est le mécanisme du vol du texte qui est mis en cause, et donc du coup la légitimité de publier contre ces textes altérés par la forme de leur transmission, le texte authentique. Voilà ce que dit, et là c'est une épître préliminaire de Lope lui-même. Il dénonce le commerce de, je cite, « ceux qui vivent, se nourrissent et s'habillent en volant, hurtando, les comédias, aux autores des comédias, aux entrepreneurs de théâtre, disant qu'ils les mémorisent en seulement les écoutant, et que ce n'est pas un vol, puisque le comédien les vend au public, et qu'ils peuvent se valoir de leur mémoire. » On voit qu'il y a à la fois un tort économique qui est fait aux entrepreneurs de théâtre, mais un tort aussi esthétique qui est fait aux dramaturges par ces textes qui sont publiés dans une forme corrompue, puisque la reconstruction de mémoire implique évidemment le plus souvent une inexactitude dans ce qui a pu être mémorisé, et ensuite le passage de la mémorisation à la transcription. Et ce texte très intéressant, Lope dit qu'il a fait une expérience, puisqu'il y avait à Madrid un personnage qui était fameux pour ce commerce-là, ce vol des textes, El de la Grande Memoria, l'homme de la grande mémoire, ça nous ramène au cours de la semaine dernière, c'était un Funès de Corrales de Comedia, qui prétendait donc mémoriser les textes, et dit Lope, pour un vers que j'ai trouvé de lui, puisqu'il a lu une de ses éditions, pour un vers de moi, j'en ai trouvé une infinité de lui, plein de folie, d'absurdité et d'ignorance. Locuras, disparates et ignorancias. Dans le cas de Fuente Ovejuna, pour y revenir, et avant d'entrer dans la seconde partie, c'est-à-dire l'analyse de la pièce, elle apparaît dans une de ses partes, c'est la dernière pièce de la 12e parte, de la docena parte, qui est publiée à Madrid en 1619, et sans doute avec un certain succès, puisque le même libraire-éditeur et le même imprimeur vont en faire une réédition la même année, 1619, et avec peu de variantes, parfois corrigeant des erreurs pour l'essentiel typographique de la première édition et d'autres fois ajoutant de nouvelles confusions. 1619 est donc la date de la publication. Le titre apparaît comme « Comedia famosa de Fuente Ovejuna », la comédie fameuse de Fuente Ovejuna, avec l'ambiguïté de « famosa », parce que ce qui est fameux, c'est le fait de Fuente Ovejuna, mais du coup, l'adjectif est transporté sur la comédia elle-même de Lope de Vega. Et on peut estimer que la date de l'écriture était la fin de 1612 ou le début de 1613, à partir d'une mention qui est faite de cette comédia dans une autre comédia, pas de Lope, et qui, elle, est datable plus exactement du début de 1613. Il y a un prologue intéressant dans l'édition de la parte tout entière, pas simplement de la pièce Fuente Ovejuna, et qui est une fiction dans laquelle Lope imagine que c'est le théâtre lui-même qui parle El Teatro, et au sein, je ne vais pas entrer dans le détail, mais d'une polémique qui s'est déchaînée autour de cette fameuse question du respect ou de la transgression des règles poétiques, héritées de la poétique aristotélicienne. Et c'est le théâtre lui-même qui s'adresse à ce lector amigo, et évidemment, dans cette prosopopée du théâtre, c'est Lope qui parle. À la fin de, ce texte, on entre dans des détails sur la polémique, mais le début est la reprise finalement du thème de l'écart entre la représentation et l'édition. Parce que dans le texte que j'ai déjà cité, qui n'est pas de Lope mais de Gaspar de Porres de 1614, dans la quatrième parte, on voit qu'il y a les raisons pour lesquelles un texte peut ou doit être imprimé ne sont pas simplement liées à cette volonté d'établir un texte authentique, qui pourrait déjà suffire à surmonter l'écart qui existe entre le genre qui est fait pour « el gusto de los oyentes », pour le plaisir de ceux qui écoutent, et non pas pour la lecture, mais aussi parce que dans la lecture peuvent apparaître plus nettement, plus fortement, des éléments qui sont dans le texte et qui pourraient être perdus à la représentation. Dans ce texte de 1614, Gaspar de Porres évoquait qu'avec la lecture, et pas seulement l'écoute, on peut, dans les textes, voir de nombreuses choses sentencieuses et graves, et beaucoup d'autres fines et subtilement dites. Et les mots comptent parce que le sentencieux, c'est la traduction de sententiosas, et si vous vous souvenez de la fin du cours de la fois dernière, la sentence, la sententia, est le lieu commun dans son universalité, c'est-à-dire le fait de ce qui est dans un texte a le poids le plus lourd de vérité universelle. Et donc, ces choses sentencieuses, ces sentences, ces lieux communs qui sont dans les textes, le lecteur, dans la tranquillité de sa lecture, pourra évidemment les saisir plus adéquatement que le spectateur dans la représentation. Et d'autre part, les choses fines, agudas, agudeza, c'est-à-dire la subtilité, la pointe, la finesse, ici, non pas peut-être du côté de la vérité universelle des lieux communs, mais du côté de la force stylistique de ces choses qui sont subtilement dites. Alors, dans le texte de 1619, el teatro, reprend cette même articulation rhétorique, d'un côté en rappelant, évidemment, que lire n'est pas voir, et que le lecteur devra faire appel à sa mémoire pour donner de la chair, de la vie, du mouvement à ce qu'il est en train de lire. « En lisant ces comédias, dit le théâtre, tu te souviendras, lecteur, des actions de ceux qui servirent d'âme à ces corps pour que te donnent plus de plaisir les figures qui n'espèrent de mouvement que de ta seule grâce. » Donc on voit qu'ici, cette fameuse métaphore de l'âme et du corps, souvent commentée ici en rapport avec le livre, et devient une métaphore utilisée pour nous dire que le texte n'est que le corps d'une totalité dont l'âme est donnée par les actions, les mouvements des comédiens. Donc, un effort d'imagination de ces mouvements, de ces actions est nécessaire pour que ce corps ne soit pas inerte, mais qu'il soit habité par une âme vive. Donc, au point de départ, de nouveau, cette dissociation, mais aussi l'idée que cette lecture, qui par certains côtés est mutilée par rapport à l'écoute et au spectacle, cette lecture est aussi une condition pour que les textes soient appréciés plus profondément. Car, je cite, dans ton logis, aposento, où tu les liras, personne ne permettra que l'on fasse du bruit, que l'on te dise du mal de ce que tu sauras apprécier par toi-même, libéré du désagrément du spectateur qui arrive en retard, du comédien qui se trompe et de la femme désagréable, laide et mal habillée. Donc toutes les distractions du théâtre qui viennent comme un obstacle à la capacité de compréhension du texte dans ces choses subtilement dites, agudas, et dans les vérités universelles, sentencias. On a donc là une reprise dans ce texte de 1619 d'une figure rhétorique désormais classique, commencer par montrer que le texte est fait pour le spectacle et que donc le lire est une perte, et en même temps renverser cette rhétorique en montrant qu'avec cette lecture qui n'est pas demandée ou exigée ou implicite au genre, vont pouvoir être saisis dans la tranquillité de l'aposento, du logis, dans le silence de la lecture du lecteur individuel et solitaire, ce qui, dans les comédias, sont des éléments à la fois de prouesse stylistique, las agudezas, les pointes, et de l'autre côté, ce qui en sont les vérités universelles. On va peut-être faire la petite pause maintenant, de façon à ce que la seconde partie du cours soit vouée à l'analyse de ce que Lope de Vega a fait avec la chronique de Rades. Donc il est 11h06, nous pouvons reprendre à 11h11 selon nos habitudes rigoureuses.